C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle copywriting pour les réseaux et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut, tu vas bien ?
Oui, très bonne, très grosse forme.
Ah ouais, bah tant mieux. Alors, on va enflammer l'épisode aujourd'hui. Il y a un beau temps sur Lyon. Ça y est, on revoit le soleil. On revit. Là, on va parler avec vous de comment on écrit le mieux possible sur les réseaux. Il y a des petites règles à respecter, des petits tips qu'on a à vous donner. Je pense que ça peut que vous aider.
Ouais, c'est un art martial, hein, écrire pour les réseaux.
Oui,
ça
ne
s'improvise pas. On peut avoir des skills naturels pour l'écriture, mais ce n'est vraiment qu'en bossant, en essayant et puis aussi en étudiant de près les réactions des communautés qu'on peut vraiment devenir ceinture noire de conception rédaction.
Ouais, surtout que, attention, moi je trouve qu'on a l'impression qu'écrire des petits wordings pour les réseaux, c'est facile, qu'il suffit d'aller hop en 2 minutes là sur le coin de la table, je viens de recevoir ma petite créa, je sais de quoi je voulais
parler. J'ai envie de dire que c'est un métier quand même.
Et tac tac, j'envoie ça comme ça. Non, ouais, c'est un métier, c'est un taf, il y a des règles à respecter, c'est un art même, je dirais, que les meilleurs CM maîtrisent à la perfection et dont il faut bien s'imprégner parce que un bon wording, ça peut changer
ça fait la diff.
Tout, ouais, ça peut changer toute la phase d'un poste et vraiment faire performer des postes de bien des manières.
Ouais, écrire pour les réseaux sociaux, déjà ce qu'il faut bien rappeler c'est que ce n'est pas la même chose qu'écrire pour le web, c'est pas pareil, il existe des centaines d'articles en ligne pour apprendre à copywriter pour le web. Il y a aussi plein de méthodes un petit peu dogmatiques que vous avez peut-être croisées ou vous allez croiser, comme le fameux AIDA, qui sont des méthodes d'écriture. Mais attention, écrire pour les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que lorsque j'écris sur les réseaux, je n'écris pas obligatoirement pour vendre, j'écris surtout pour tisser du lien entre une marque et ses communautés, et c'est quand même pas tout à fait la même chose.
Ah non, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement, les wordings peuvent servir tout un tas d'objectifs, on va voir un petit peu par la suite, mais la vente ou la conversion, c'est qu'une partie de ces objectifs, et on va voir qu'il y a plein d'autres objectifs à aller chercher avec un wording. En tout cas, je trouve que c'est... Que c'est toute une manière de faire quand on écrit sur les réseaux sociaux. Et on va peut-être rentrer tout de suite dans le...
Ouais,
dans le
allez, je propose qu'on commence avec 3 petites astuces très simples pour se mettre en condition et travailler sa conception rédaction. Première astuce, évitez les distractions quand vous écrivez. Alors là, ça semble un petit peu la base, mais vous verrez que pas forcément. C'est lorsqu'on est coincé dans l'écriture, souvent on a tendance à faire ses wordings, son écriture de poste un petit peu entre deux trucs. On se dit, bon, juste avant de publier, tiens, faut que j'écrive j'ai mon visuel, ça y est, il a été validé, maintenant faut que j'écrive un truc. Ça, c'est pas le contexte le plus adéquat pour écrire.
Ah non, ça c'est quand on est à la bourre, effectivement, quand on n'a pas bien prévu son calendrier édito, qu'on n'a pas pu s'y prendre à l'avance, on se retrouve effectivement, comme tu dis, en last minute, là, on a reçu la créa, le poste sort demain, faut vite faire un wording et on prend pas le temps de bien y réfléchir. Ça, c'est clairement à mettre du côté des mauvaises pratiques. Quand on travaille un wording, c'est comme un temps pour un créa qui va faire une créa. Il faut un temps, il faut se laisser 1 heure, 2 heures avec plusieurs wording à travailler, tranquille, on se met dans sa bulle, on s'enferme et on commence à aller suivre tout un processus dont on va vous parler après.
Allez, moi, il faut du calme. Juste un conseil, allez, accordez-vous au moins minimum 33 minutes pour écrire.
J'ai entendu que tu avais parlé de
33. Pourquoi 33
minutes.
Ça fait un petit peu, les préceptes du docteur Tourvieille de La Broue, donc c'est pour ça. Comme dites 33.
Un hommage à ton papa.
Exactement, mais faites 33 minutes. Dites-vous 33 minutes. C'est mes moyens mémotechniques. Je me laisse ce temps-là. Et si j'ai moins de 33 minutes, je ne me lance pas dans l'écriture de un ou plusieurs wordings. Il faut du temps, il faut se mettre en condition, il faut se mettre dans sa bulle. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, simplifiez votre contenu. C'est simple. Un poste égale une idée.
Ouais,
c'est aussi simple que ça. Dites-vous que vous écrivez pour, peu importe vos audiences, que vous écrivez pour des enfants en bas âge. Si vous leur donnez trop d'infos dans un même contenu, ça veut dire que votre contenu, il est mal écrit et que l'info ne passera pas.
Oui, encore plus trivialement, je dirais, comme dirait Aurel San, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de simple, basique, parce que vous êtes con. C'est un peu, c'est un peu trop dur.
Non, mais gardez ça en tête.
Mais il faut garder en tête que oui, un post, c'est une idée, pas plus. plus, ça sert à rien de vouloir faire passer plein d'idées, faire passer plein de choses complexes. Non, en fait, c'est prendre le risque, quand on met 2, 3, 4 idées dans un wording, c'est prendre le risque qu'il n'y en ait aucune d'entre elles qui fasse mouche, aucune d'entre elles qui soit transmise. Il vaut mieux se concentrer sur une, bien la transmettre de manière simple, précise, concise, et on a beaucoup plus de chances que celle-là déjà soit comprise.
Et ça a l'air tout bête dit comme ça, mais dans les faits, hein, d'expérience, c'est pas si évident. Parce qu'en général, quand on se lance dans l'écriture d'un poste, on a envie de dire plein de trucs dedans. Et il faut couper, élaguer pour ne retenir qu'une idée et travailler autour de cette idée.
Bah, parce qu'un poste, ça peut être plein de wording différents, ça peut être plein de choses à raconter à l'intérieur qui sont différentes. Et effectivement, déjà, arriver à sélectionner une idée, un sujet sur ce poste-là qu'on veut travailler, c'est déjà pas si simple.
Exactement. Allez, je veux parler quoi de mes arguments produits. J'en utilise un. Je fais pas la liste arguments produits. Je veux parler d'un event. Pareil, je focus sur un truc de cet event.
Regarde, je trouve que c'est un bon exemple ce que tu donnes le produit parce qu'effectivement, on peut avoir, allez, on va dire qu'on a 3-4 arguments autour d'un produit. Et bah, au lieu de balancer vos 3-4 arguments sur un seul poste, vous savez quoi? Eh ben, faites 4 postes autour de ce produit-là sur 2 ou 3 mois.
Et les
vous
astuces
avez...
de maître chez lui sont de retour.
Un argument par poste et ça sera beaucoup plus explicite pour tout le monde.
Allez, troisième astuce, un peu de bon sens, mais vous verrez que ça marche à tous les coups. Lisez le texte à haute voix. Ça. Écrivez vos wordings, ok, mais à un moment donné, lisez-le à haute voix. Si ça marche à haute voix, c'est que vous avez visé juste et surtout, vous allez vous rendre compte qu'en lisant à haute voix, vos phrases, bien souvent, sont trop longues, elles sont trop alambiquées, elles sont pas assez simples, pas assez efficaces. Quand je lis à haute voix, si ça marche en le parlant, c'est que mon wording, il est bon.
Eh oui, mais alors ça c'est un classique. Ça permet de tester plusieurs choses. Ça permet de tester le rythme de votre phrase. Est-ce que la syntaxe elle est correcte? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais tout de suite on va sentir à l'oreille si ça accroche ou si au niveau de la forme déjà ça fait mouche. Quand vous le lisez à haute voix, parfois vous le lisez dans votre tête et vous arrivez à vous rattraper un peu tout seul et vous avez l'impression que ça passe. Si vous le lisez à haute voix, comme si vous le lisiez à quelqu'un et que là, vous n'arrivez pas à le lire, qu'à un moment donné, ça accroche, qu'à un moment donné, c'est trop long, qu'à un moment donné où on se perd dans le sens, vous allez tout de suite le voir. Et ça, c'est pour ça que lire à haute voix, c'est une obligation quand on a fini son wording. On le lit à haute voix pour vérifier que le rythme, il est bon, que le sens, il est bon, que tout va bien.
Ouais, ça, c'est les 3 astuces un peu préalables. Hein. T'en avais peut-être une autre.
Non, j'avais, alors, qui va un petit peu avec le lire à haute voix et auquel on a beaucoup discuté ici chez Supernatif avec les community managers, notamment quand on a fait des travails sur la conception rédaction. Bien écrire, ça veut surtout dire aussi pour moi être concis. S'il y a une chose que vous devez retenir dans le fait de savoir bien écrire, c'est être concis. Et être concis, ça veut pas dire que vos wordings doivent faire 4 mots. Hein. C'est pas du tout ça. C'est plutôt se dire que bien écrire, c'est savoir exprimer des idées qui peuvent être parfois complexes, mais les exprimer de manière simple et avec le moins de mots possible. Et ça, c'est très dur.
Et mettre des points, putain.
Oui, voilà.
Mettre des petites phrases.
J'allais y venir. Ce qui veut dire qu'après, on n'a plus de phrases de 3 lignes, 3 lignes et demie. Parce qu'en fait, on n'est ni Émile Zola ni Pierre Bourdieu, donc écrire des phrases de 3 lignes, 3 lignes et demie, il n'y a personne qui a fait d'études de lettres ici non plus. Donc quand vous faites des aussi longues phrases, vous prenez des risques fous de faire des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire, des incompréhensions.
Et surtout de voir tes audiences décrocher hein, à la lecture.
Mais à cause de tout ça aussi, effectivement. Et du coup, bah, la première des choses, et c'est pour ça que lire à haute voix, c'est aussi important, c'est que la première des choses, c'est d'essayer de faire des phrases courtes, simples et qui veulent dire quelque chose. Si déjà vous arrivez à écrire de cette manière-là, vous aurez déjà fait un grand pas.
Tu le vois très vite quand tu lis ton texte à haute voix. Hein, tu te rends vite compte, genre, ah, là, c'est beaucoup trop long. Allez, ça, c'était un peu la base. Hein. Maintenant, on va parler de l'écriture en elle-même, du wording en lui-même. Et là, il y a des fondamentaux à maîtriser pour qu'un wording social media il soit de qualité. Il y en a 3 pour moi. C'est les 3 variables d'une équation magique. Hein.
Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est valable pour un peu au-delà du social media, c'est de connaître la marque, hein, déjà, pour laquelle on écrit. Ça, c'est la base avant qu'on se lance vraiment dans
Et après, on s'adresse à des CM. Normalement, les CM, ils connaissent par cœur la marque.
Attention quand même, hein, parce que connaître sa marque, définir l'identité de sa marque, donc ça, c'est un travail qui est peut-être fait au préalable. Il y a connaître la tonalité de sa marque. Et cette tonalité-là, faut la travailler en amont.
Ouais, allez, on va commencer par le commencement. Déjà, quand j'écris un wording, au moment où je l'écris, il faut que je me pose une question fondamentale, c'est pour quel persona j'écris, à quel persona je parle. À chaque fois que je travaille un wording, je dois me demander c'est qui le persona, c'est qui la cible, c'est c'est qui? Et vous, normalement, vous l'avez fait déjà préalablement, ce travail sur vos personas. Vous les avez au-dessus de votre bureau. Ils ont un prénom, ils ont un nom. Vous connaissez leur pain point, vous savez leur motivation, vous savez ce qui se passe dans leur vie, vous savez ce qui, vous pouvez projeter ce qui se passe dans leur feed réseaux sociaux. À partir de là, vous écrivez pour l'un d'entre eux, pas tous, un seul.
Ouais, pour moi, là, ça rejoint le travail sur l'identité de marque. Normalement, on a travaillé la tonalité, on travaille aussi les personas. Et quand on parle, on ne s'adresse pas à personne. Quand vous parlez toujours à quelqu'un. Donc là, c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Quand vous vous adressez, quand vous écrivez un wording, il faut que vous ayez en tête, comme tu disais, la personne à qui vous adressez ce wording. Donc vous allez choisir un persona prioritaire et vous allez vous adresser à ce persona-là. Et là, il y a une deuxième étape avec ce persona-là, c'est que vous n'allez pas juste vous adresser comme ça dans le vide à ce persona, vous allez aller chercher une motivation ou une contrainte de ce persona. Et en fait, cette motivation et cette contrainte que vous allez sélectionner au préalable, avant même de vous lancer dans la rédaction du wording, hein, vous allez tout de suite définir le sujet de votre poste et puis choisir le persona et la contrainte ou la motivation. Cette contrainte ou cette motivation, c'est ce qui va vous permettre de travailler l'angle de votre wording. Donc, il est bien important de très bien choisir et de prendre le temps de choisir à qui vous vous adressez et à quelle contrainte ou motivation vous allez répondre.
Ouais, totalement. Ça, c'est le premier truc. Deuxième variable clé de cette équation d'écriture, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? Pourquoi je suis en train d'écrire, de publier ce post? À quoi il sert, hein? Ça, c'est une question importante, bien souvent, qu'on oublie. C'est quoi l'objectif? Et il y en a plusieurs. Il y en a plein. Le premier, allez, si on devait faire une liste, mon objectif peut être conversationnel. Du coup, comment je vais pouvoir mesurer si j'ai bien réussi mon écriture, si mon post il est bon? C'est le nombre de commentaires ou de MP qui vont être de messages directs qui vont être générés à suite de ce post. Conversationnel, il peut être l'objectif, ça peut être l'amplification. Je veux faire en sorte que ce contenu soit partagé. Donc là, pareil, je vais pouvoir regarder ce qui se passe du côté des partages. Je vais peut-être envie de rapporter de l'utilité de marque.
Ouais, de l'utilité de marque avec de l'enregistrement, par exemple sur Instagram, on le sait, une marque de food qui balance de la recette, par exemple, de la brand utility, elle va appeler ses audiences à enregistrer un post pour qu'il puisse être réutilisé un peu plus tard. Donc ça, c'est une des métriques qu'on peut voir, l'enregistrement, qui est assez intéressante au niveau de l'utilité de marque. On a aussi la conversion, on en parlait tout à l'heure. Si on veut emmener vers un site, vers un article, vers un point de vente, il y a un clic avec un lien extérieur. Bah, sur Instagram, peut être dans la bio. Sur Facebook, ça peut être direct. Mais là, le taux de clic peut être intéressant à suivre. Et puis, il y a juste le like, l'inspirationnel, voilà, on a juste envie d'inspirer nos audiences, de créer du lien avec elles par quelque chose qui est beau, par quelque chose qui, en tout cas, qui les inspire. Et là, c'est plus le like qui va nous servir.
Donc, avant d'écrire, je me pose la question de mon objectif. À quoi, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux susciter comme engagement auprès de mon audience? Est-ce que c'est conversationnel? Est-ce que c'est amplification, brand utility, conversion, inspirationnel? Si vous êtes perdu là, on vous met tout ça en note de cet épisode, hein, vous pourrez le voir.
Et tous ces objectifs, là, on les balance comme ça. Ça ne veut pas juste dire que, OK, c'est l'objectif de mon poste. Et voilà. Non, c'est l'objectif de votre poste. Ça veut dire que dans votre wording, vous allez travailler pour tendre vers cet objectif. Si on parle de conversationnel, vous allez aller questionner vos audiences. Si on parle d'amplification, vous allez trouver un tricks pour les pousser à partager ce poste à d'autres gens. Si c'est la brand utility, vous allez les inviter à l'enregistrer pour plus tard, à l'utiliser au bon moment, quand ils seront en cuisine, en train de préparer à manger pour une recette, par exemple. Donc, à chaque fois, votre wording, il doit tourner autour de ça. Il doit aller servir cet objectif.
Exactement. Et puis ensuite, une fois que j'ai ça, hein, mon persona, à qui je lui parle, quel objectif, qu'est-ce que je souhaite susciter comme engagement chez lui, et eh ben t'as raison, tu l'as dit tout à l'heure, il faut que je rapporte la tonalité, la tonalité de ma marque, hein. Évidemment, je dois me souvenir systématiquement d'utiliser le ton le plus approprié à ma marque, mes codons verbaux de marque, et pour ça, ben on doit les retrouver, hein. Je dirais que c'est ce qui va venir, et faut que je fasse attention à pas être tombé à côté, à pas être hors tonalité au moment d'écrire.
Non, il faut bien respecter la tonalité de sa marque. Ça peut être plus sérieux, plus enthousiaste, plus formel, plus informel. Est-ce que je tutoie, je vous vois? Il y a tout un tas de règles comme ça qu'il faut connaître, hein, quand même, avant d'aller écrire au nom d'une marque. Vous êtes community manager, vous n'êtes pas directement la marque, donc il faut que vous connaissiez bien quelle est cette marque, son identité, sa tonalité et du coup, bah, ses personas, comme on disait tout à l'heure. Et là, normalement, vous avez toutes les informations réunies pour pouvoir bien écrire.
Voilà, équation à trois variables, simple.
J'ai une dernière, moi, un peu requête que j'ai vue dans la pratique avec en étant les community managers et en voyant les community managers travailler.
Ouais.
C'est qu'une fois qu'on a réuni toutes ces informations, hein, comme tu disais, du persona, l'angle qu'on va attaquer,
l'objectif,
etc., c'est parfois un peu bloquant, un peu dur de se lancer dans la rédaction. On est un peu bloqué, on a le sujet de notre poste, on a l'angle, on a tout ce qu'il faut, mais on n'arrive pas à enclencher, à passer directement dans la partie rédaction. Ce que souvent j'invitais à faire les CM et que moi-même je pratiquais, c'est de se dire, au lieu de passer directement à la rédaction, on va essayer de passer d'abord par les idées. Donc on va prendre l'angle et on va écrire différentes idées d'angle comme ça, sans forcément les rédiger tel que ça va apparaître après dans le poste, mais juste commencer à mettre un peu des idées d'angle. Et puis des petits tricks pour l'objectif, commencer à écrire deux, trois petites manières d'aller vers l'objectif. Et une fois qu'on a ça, après, quand on a les idées, là on se dit, ok, maintenant je me concentre sur la partie rédaction en utilisant la bonne tonalité,
etc. De toute façon, ça c'est clé, hein. Ce que tu dis, c'est que pour écrire, il faut écrire.
Oui, c'est ça.
Pour bien écrire, il faut de la quantité pour faire de la qualité. Donc j'écris, je me prends pas trop la tête, j'écris mes wordings, et puis petit à petit tout va s'emboîter.
Pour aller dans ton sens, c'est exactement ça. Je veux dire, quand vous essayez de dormir, vous faites semblant de dormir. D'écrire, il faut faire semblant d'écrire au début.
Mais il est bon. Eh, il faut que tu fasses un bouquin à Jan Schellil. Les techniques de Maître Schellil. Et ce qui va dans cette direction aussi, je pense, qui est très important, c'est de travailler ses champs lexicaux. Ça aussi, conseil fort qu'on vous fait.
Oui.
C'est la clé pour écrire sur les réseaux sociaux. Un bon wording, c'est aussi un texte de statut qui manie avec habileté une richesse lexicale. C'est vraiment un bon préalable à l'écriture de travailler les champs lexicaux de la marque de façon exhaustive avant. Je prends un vrai gros moment. Si j'écris pour les réseaux sociaux d'une marque de bière, par exemple, eh bien, il faut étudier de façon approfondie les champs lexicaux qui sont spécifiques aux différentes communautés que je souhaite adresser en tant que marque. Alors, par exemple, comment je fais? Déjà, j'ouvre un document Word. Puis là, pareil, j'écris, je note beaucoup de choses et je vais commencer par les synonymes de mon produit. Quels sont les synonymes de bière? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que mes communautés disent? Mousse, pression, binouze, canon, etc. Et là, pareil, j'essaye d'être exhaustif là-dedans. Je note tout et puis je trie. Je les passe au tamis de ma tonalité de marque. Binouze, non, je barre. Ça, c'est pas dans ma tonalité. Je sais que ce mot-clé, je l'ai blacklisté et le jour où je serai en écriture, je le réutiliserai pas. Ensuite, une fois que j'ai fait mon produit, c'est quels sont les différents instants de consommation et les expressions qui sont attachées. Boire un coup, s'en jeter une petite, déguster, etc. Pareil, j'essaye d'être très exhaustif. Et puis après, ce que j'aime bien aussi, c'est quels sont les paramètres lexicaux voisins. J'élargis un peu mon champ de vision. Moi, en général, je réfléchis comme ça. J'imagine une scène un peu en top view, vue d'en haut, avec mon produit au centre. Qu'est-ce qu'il y a sur la table,
Le contexte,
je fais de la food,
quoi, un peu.
Le contexte.
Eh oui.
Quand je suis une marque de bière, j'ai les cacahuètes, j'ai les chips, j'ai les potes autour de la table et tout. Mmh. Pareil, là, j'essaye de travailler de façon exhaustive tous les champs lexicaux autour de ma marque. J'exclus
ce
qui est hors tonalité. Et après, j'ai, on va dire, une sorte de... J'ai un peu les ingrédients de ma recette d'écriture.
Non, mais ça, c'est ta raison, c'est primordial et c'est comme ça qu'on travaille une tonalité et qu'on travaille aussi de la variation dans dans l'écriture des wordings. Parce que sinon, on se rend compte que quand on écrit 2-3 wordings par semaine, on va vite tourner en rond en termes de champ lexical, de vocabulaire, etc. Donc ce travail-là, il est primordial, effectivement.
Une fois que j'ai dit bière, je vais pas le dire 1000 fois. C'est quoi les variantes? Qu'est-ce que je peux dire différemment? Ça, c'est un petit peu, ça me semble très intéressant. Allez, juste une petite astuce, un truc qu'on aime bien, Rime solide.com, franchement là-dedans aussi parce qu'on a des rappeurs à bord mais hormis ça super intéressant Rime Solide, il y a vraiment tout un truc autour des champs lexicaux, ça vous permet d'ouvrir vos chakras, donc voilà
petit tips.
Et puis ultime truc à savoir, il n'existe jamais qu'une seule solution wording par poste.
Non, ça un poste c'est plein de wording différents, ça dépend ce que vous avez envie de raconter, à qui vous avez envie de le raconter, il y a plein d'autres variables qui rentrent à l'intérieur de l'écriture d'un wording.
C'est jamais le premier jet qui est le bon et c'est sans doute jamais le dernier non plus. À un moment donné, il faut trancher, il faut se dire allez, ça marche, j'ai rempli mes objectifs, ça va fonctionner.
C'est un vrai travail créatif l'écriture des wordings, c'est un vrai boulot et les CM sont sont un bon CM, écrit des bons wordings. Ça fait partie de ses compétences et de ses qualités. Donc j'espère que ça vous a un petit peu aidé cet épisode. En tout cas, on a sûrement peut-être pas les mêmes techniques que vous. Peut-être que vous aussi, vous avez des petits tips, vous avez des manières d'écrire dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. On en parlera avec vous. On sera content d'échanger sur ce sujet. @supernatif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. N'hésitez surtout pas. Et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc pareil, laissez-nous une petite note, un commentaire, ça nous fait kiffer. Et puis surtout parler de ça autour de vous.
Ouais,
vous
allez sûrement parler de Super Deli, Super Deli.
Là, c'est un épisode qui devrait tourner dans tout le social média français et francophone.
Les amis, merci à vous et on se donne rendez-vous
dès demain.
Ciao,
ciao.
Salut tout le monde, ciao.